Vous le savez, quand on médite la parole du Seigneur, il faut être attentif à chaque mot. C'est un peu comme dans la psychanalyse, si vous avez fait une analyse, eh bien l'analyste, le professionnel, est attentif à chaque mot, parce qu'un mot ouvre un monde. Et il y a un mot qui est intéressant, c'est « assis ». Jésus s'était assis dans le temple. Vous le savez, la position assise dit deux choses. Premièrement, celui qui est disciple et qui écoute. Mais aussi la position assise, c'est la position du maître qui enseigne. Et là, Jésus, il est en position de disciple. Et il regarde, il se laisse enseigner par ceux qui vont et viennent dans la foule au milieu du temple. Et il se place en face de la salle du trésor, trésor auquel est margé les scribes, les prêtres, tous ceux qui vivaient de ce trésor-là, de l'argent que déposaient les gens, mais aussi un certain nombre de personnes qui étaient dans le temple et vivaient dans le temple aussi de l'argent qu'on leur donnait. Vous vous souvenez peut-être de la prophétesse Anne. La prophétesse Anne, quand Jésus est présenté au temple, eh bien, c'est une veuve depuis 12 ans et puis qui a 84 ans et qui est dans le temple et elle rencontre le Seigneur enfant et dit voilà, c'est la délivrance d'Israël. C'est intéressant de voir comment Jésus regarde les choses. Il s'assied et en étant assis, il se laisse enseigner par ceux qui vont et viennent. Et quel enseignement il nous donne ? Il nous donne un enseignement tout à fait étonnant parce qu'il ne regarde pas à l'apparence. Il ne regarde pas à l'apparence, au contraire, il dit « méfiez-vous de ceux qui sont sur l'apparence, hein, qui font de longues prières, qui sont en vêtements d'apparat, qui veulent se faire voir. » Il regarde au cœur. Et qu'est-ce qu'il regarde dans le cœur ? C'est la capacité de don. Et je trouve ça très beau quand il signale de façon particulière l'exemple de cette veuve qui met 2 piécettes dans le trésor. Elle a mis plus que tous les autres, elle a mis tout ce qu'elle avait pour vivre. Et quand vous regardez le texte grec, c'est marqué, elle a mis sa vie, bio, qui a fait, on dit l'agriculture bio, etc. C'est vivant, le vivant. Elle a mis tout ce qui était vivant. Elle l'a mis en contact avec le Dieu un, le Dieu vivant. C'est intéressant parce qu'au fond, c'est tout à fait un enseignement pour nous et qui est important de souligner. Quand on est veuf ou veuve, et là il s'agit de deux veuves, vous le remarquerez bien, dont on ne connaît pas le nom. C'est intéressant quand on dit le nom de la personne. Vous vous souvenez, il y a récemment, on a parlé de Bartimée, le fils de Timée, mais là, c'est 2 veuves anonymes. Dans l'Ancien Testament, avec cette veuve qui rencontre le prophète Élie, la veuve de Sarepta, donc dans un pays païen, et qui écoute, qui est à toute extrémité. C'était dans ce moment-là, une période de grande famine, de grande sécheresse, et tout le monde était dans une grande difficulté. Et qu'est-ce qu'a fait le prophète Élie ? Le prophète Élie, lui aussi, il a regardé la veuve. La veuve et son fils, il les a interpellés. Et puis, elle dit, en fait, moi, je vais cuisiner. J'ai un tout petit peu de farine, un peu d'huile, un peu d'eau. Et puis, je vais cuisiner une galette. Et puis, mon fils et moi, nous allons mourir. Cette veuve-là, elle regardait vers la mort. Et qu'est-ce qu'a fait le prophète Élie ? Le prophète Élie a réveillé en elle ce qui était vivant. Ce qui était vivant. C'est-à-dire que sa capacité de don. Eh bien, je te demande, cuisine-moi d'abord une petite galette et ensuite fais-en pour toi et ton fils. Mais, je te le dis au nom du Seigneur, la jarre de farine, point ne s'épuisera, vase d'huile, point ne se videra. Je trouve ça intéressant de dire comment, quand on rencontre le Seigneur dans sa vie, ce qui pouvait être attirance vers la mort, ce qui pouvait être d'une certaine manière, expérience d'une vulnérabilité. On le sait bien, dans le monde biblique, les veuves étaient dans une grande fragilité, dans une grande vulnérabilité. Eh bien, elles dépendaient des autres pour vivre. Eh bien, le Seigneur, quand il voit ça, il dit, toi aussi, même si tu es vulnérable, même si tu es dans une fragilité, tu es capable de beauté, tu es capable de don. Et je crois que pour nous, c'est une vraie dimension qui est importante de notre foi. Et je pense par exemple à nos amis espagnols de la région de Valence, vous avez vu certainement aux informations, tous ces drames avec ces pluies diluviennes, etc. Et j'écoutais des vidéos, moi je comprends bien l'espagnol, donc je voyais un certain nombre de témoignages très, très touchants, de cette femme de 62 ans qui dit, moi je suis couturière, tout mon atelier a été emporté par la boue, et qu'est-ce que je vais faire, est-ce que j'aurai la force de redémarrer? Ou cet homme qui est cafetier, qui dit, moi mon bar, c'est mon seul moyen de vivre, ma femme et mon fils handicapés, nous on vit de ça, on n'a pas d'autre moyen de vivre. Est-ce qu'on va pouvoir redémarrer? Eh bien, je trouve que ça m'a fait penser à ce passage-là. Le Seigneur, quand il rencontre quelqu'un, il réveille son désir de vie. Il réveille son désir de vie. Oui, c'est vrai que face à des situations extrêmes, comme la sécheresse au temps du prophète Élie, ou quand on est dans un veuvage au temps biblique et tout à fait dépendant, ou dans ces bouleversements climatiques que nous connaissons, et dont des proches, des pays voisins proches sont victimes, et peut-être aussi nous-mêmes, eh bien, on peut être tenté par une certaine désespérance. Est-ce que je vais pouvoir seulement y arriver? Est-ce que ce découragement qui peut nous habiter? C'est vrai que notre vie oscille entre le mystère et l'absurde. C'est vrai que, d'une certaine manière, il y a quelque chose d'absurde dans cette situation d'hommes et de femmes qui ont vu leur vie balayée par des pluies torrentielles et qui, d'un jour à l'autre, se sont retrouvés dans une grande précarité, sans parler de ceux qui ont perdu des êtres chers, évidemment, à plus de 200 morts. Et puis, de cet absurde, de cette veuve qui veut se laisser mourir. Et on peut se laisser entraîner par ça, attirer vers des puissances de mort. Mais aujourd'hui, dans cette chapelle, modestement, à tâtons, eh bien, nous voulons faire le choix du mystère. Nous voulons faire le choix du mystère. Nous voulons faire le choix de... Vous savez, en mystère, en grec, ça vient de muo. Muo, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est caché. Il y a quelque chose qui est caché dans notre vie de vivant qu'il faut réveiller. C'est ça le mystère. Si nous sommes ici dans cette chapelle, c'est que nous voulons faire le choix du mystère. Dans nos vies, il y a quelque chose de mystérieux, quelque chose qui nous échappe, quelque chose qui va au-delà même de ce que nous pouvons rationnellement projeter dans nos vies. Et le Seigneur vient là et nous dit, regarde cette puissance d'amour, de don que tu as encore malgré les épreuves. Et j'allais dire bien, c'est difficile à entendre, mais parfois à cause des épreuves. À cause des épreuves, les épreuves viennent comme révéler en nous cette capacité d'aimer. Comme cette femme de Sarepta, veuve avec son fils, au milieu de la famine, de la sécheresse, dans le pays où elle était, eh bien, le Seigneur, à travers le prophète Élie, réveille en elle cette capacité d'aimer, cette capacité de don. Comme cette veuve dans le trésor, eh bien, le Seigneur remarque, il est assis, il se laisse enseigner, il remarque dans cette attitude, quelque chose qui vient de Dieu. Oui, certainement que nous avons à nous laisser aussi enseigner par des personnes qui parfois ont tout perdu, qui sont dans une grande vulnérabilité, grande fragilité, vivent des épreuves très difficiles. Et moi, j'aime bien penser à l'épreuve comme à une épreuve photographique. Vous savez que du temps de l'argentique, de la photo argentique, où on plongeait, on imprimait sur un papier le négatif et on le plongeait dans un bain qu'on appelait le révélateur et puis un bain qu'on appelle le fixateur. Bon, tout ça, c'est un temps que les moins de 20 ans n'ont pas connu. Mais je trouve que l'épreuve, c'est un peu comme ça. Ça vient révéler quelque chose, mettre à jour comme une photographie, une capacité, nous dire qui nous sommes. Alors, les épreuves dans nos vies, il peut y en avoir de multiples. Le veuvage, forcément, c'est un contact avec la mort. Hein, qui dit veuf ou veuve, c'est d'une manière ou d'une autre avoir vécu un deuil, le deuil d'un conjoint. Mais il peut y avoir des épreuves de santé, des épreuves professionnelles, hein, des épreuves relationnelles. Eh bien, dans ces épreuves-là, le Seigneur nous dit, est-ce que tu fais le choix du mystère? Est-ce que tu fais le choix du don? Est-ce que tu découvres que tu es encore capable, dans ce moment-là particulier, de donner et d'aimer? Et c'est pour nous aussi l'enseignement que nous donne l'Eucharistie. Parce que moi, quand j'ai lu ça, quand j'ai dit « je n'ai pas de pain, j'ai seulement une jarre, une poignée de farine et un peu d'huile, je vais cuisiner une galette », je me dis « tiens, tout de suite ça m'a fait penser à l'Eucharistie. Tout de suite. Un peu de pain. Du pain sans levain. Tellement de fragilité, tellement de vulnérabilité dans l'hostie qui nous est remise entre nos mains. Tellement de capacité d'aimer. Au fond, on participe à la messe dominicale pour nous rappeler que nous sommes nous aussi, comme Jésus qui s'offre dans le pain et le vin consacré, nous sommes aussi capables d'être un lieu d'amour et de don dans nos vulnérabilités les uns les autres. Alors sous ces mots d'en faire mémoire, c'est des choses que nous savons bien sûr, mais de se dire que l'Eucharistie, peut-être vous avez entendu cette expression, c'est le pain des forts. Hein, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est le pain des forts. C'est-à-dire qu'on vient auprès du Seigneur parce qu'on est dans le besoin pour justement qu'il vienne dessiller nos yeux, découvrir ce qu'il y a de capacité d'aimer et de vie en nous, parce qu'on le reçoit, lui, dans la fragilité. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Alors, c'est vrai que c'est un pari. La foi, c'est un choix. La foi, c'est un choix. Ça, c'est sûr. Ça, c'est absolument sûr. Et notre foi, la foi de ces deux femmes qui donnent tout ce qui est vivant en elles, ce qui est capacité de vie, qui le mettent en contact avec le Seigneur, eh bien, c'est un exemple pour nous. C'est un choix qu'elles font. Le choix d'une radicalité, le choix d'un don. C'est très beau de voir ces exemples-là, et je trouve qu'il y a des tas d'exemples dans nos vies où on voit des gens qui sont dans des telles épreuves, mais qui rebondissent, qui on appelle ça en psychologie la résilience, mais ça va au-delà, c'est au-delà d'une attitude psychologique, c'est vraiment, pour certains en tout cas, une attitude spirituelle de confiance en Dieu, de rebondir là où j'étais complètement écrasé. C'est possible. C'est possible, par la grâce de Dieu, par le contact de ce qui est vivant en nous, avec le Seigneur, c'est possible quand nous faisons ce choix de la vie. Vous le savez, dans le livre du Deutéronome, qui sont les premiers livres de la Bible, il y a cette parole très forte, « Je mets devant toi la bénédiction et la malédiction, la mort et la vie, choisis la vie. » Choisir la vie. Pour certains, c'est loin d'être évident. Et je l'entends très bien. Je l'entends tout à fait. Parce qu'on est tiré vers le bas. Hein, sans parler de personnes qui ont des pathologies, des difficultés parfois dans leur mental. Hein, j'entends très bien ça. Mais j'entends aussi la parole du Seigneur qui nous dit « Choisis la vie. Choisis la vie. » Tu es capable d'être un homme et une femme debout au milieu des épreuves. Et plus que ça, tu deviens prophète au milieu des épreuves. Prophète. Parce que nous savons, nous sommes par le baptême prêtres, prophètes et rois. Nous prophétisons ces personnes qui se lèvent, qui au milieu de la tourmente se dressent et se dressent comme des vivants. Eh bien, ils prophétisent, ils disent quelque chose de Dieu, quelle que soit leur appartenance, religieuse. Ils disent quelque chose de Dieu. Et c'est important que nous puissions reconnaître autour de nous ceux qui sont mus par l'Esprit Saint et qui sont dans cette attitude-là. Pour moi, dans ma foi, quelle que soit toi ton appartenance spirituelle, eh bien, je reconnais dans cette capacité de te relever, je reconnais les fruits du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui est à l'œuvre dans ton cœur. Alors, ne nous décourageons pas. Parfois, on peut se décourager de soi-même ou de se décourager du monde. Ça, c'est sûr. Tas de choses ne vont pas dans notre société. On se dit, mais à quoi bon? Et puis, nous regardons la veuve de Sarepta avec son fils qui se laissait mourir. Et nous la voyons ensuite comme une vivante parce qu'elle a accepté de faire confiance. Alors, c'est des choses que vous connaissez déjà, j'en ai bien conscience, mais c'est bien qu'on se le redise les uns et les autres. Parce que aussi, on est tellement attiré vers le bas, vous voyez, par une sorte de négativité. Et puis il y a des psychologies parfois plus perfectionnistes qui sont attirées vers ça, ce découragement. Qu'il est bon de se redire les uns aux autres, non, tout n'est pas perdu. Même si tu as un peu de pain, tu peux l'offrir. Et le Seigneur lui-même, à travers cette confiance que tu lui fais, eh bien, fera naître en toi un jour nouveau, une aube nouvelle, comme l'aube de la résurrection. Puissions-nous, à travers cette confiance, devenir les témoins d'un Dieu qui nous appelle des ténèbres à son admirable lumière. Amen.